Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui une formidable histoire, celle d'une grande aventurière des années 60 et 70, Diane Fossé, qui a consacré une grande partie de sa vie, la quasi-totalité de sa vie active, à la compréhension et à la défense des gorilles des montagnes de la région des Grands Lacs, en Afrique. Diane Fossé, qui a raconté son combat dans un livre qui est devenu un film, Gorilles dans la brume, dont je me suis évidemment beaucoup inspiré pour mon récit. Et voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Quand Diane Fossé débarque au début des années 60 dans la région des Grands Lacs, en Afrique, il ne reste plus que 250 gorilles dans les montagnes du massif volcanique des Virunga. 250 survivants qui vivent à plus de 2000 mètres d'altitude dans les montagnes du Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique, du Rwanda et de l'Ouganda. Traqués, chassés, ils sont condamnés à l'extinction. Quand Diane Fossé quitte le Rwanda 13 ans plus tard, ils sont 500, deux fois plus nombreux, et aujourd'hui 900. La bataille de leur survie n'est pas encore gagnée, mais dans cette région minée par les guerres, par le braconnage et par la corruption, elle reste jouable. Les gorilles des montagnes sont nos plus proches et nos plus troublants cousins. Ils vont pouvoir continuer à partager avec nous un petit bout de la planète Terre. Et ils doivent beaucoup à Diane Fossé. Beaucoup. La première fois que Diane s'intéresse à eux, c'est en touriste, à la fin de l'été 1963. Elle a 31 ans, elle est alors éducatrice auprès d'enfants handicapés aux États-Unis. Elle voulait être vétérinaire, elle n'a pas réussi le concours. Mais elle est attirée par les animaux sauvages, aimantée. Alors elle casse sa tirelire, elle s'endette à hauteur de 3 années de son maigre salaire et elle s'achète un billet pour Kinshasa, au Zaïre. Et sur place, elle embauche un pisteur et avec 2 photographes animaliers, elle s'enfonce dans la forêt. Et soudain...
Chut ! Ne faites plus de bruit ! Ne bougez plus ! Regardez là ! Là ! Ils sont là !
Face à elle, toute une famille de gorilles. Diane écrit « Je n'oublierai jamais cette première rencontre avec les gorilles. J'entends... Je sens avant de voir une puissante odeur musquée, une odeur de basse-cour et en même temps une odeur presque humaine. L'air retentit soudain de cris perçants, suivi d'un bruit de battements rythmés. C'est un énorme mâle à dos argenté qui est caché derrière un rideau de végétation impénétrable. Il se frappe la poitrine. Lentement, Diane sort son appareil photo et sans s'approcher trop près, à travers les feuilles d'un bosquet, elle se met à les photographier. Notamment le plus imposant d'entre eux, le mâle dominant, reconnaissable à son dos argenté, 2 mètres de haut quand il se relève, plus de 200 kilos de muscles. Et pendant des heures, elle observe son manège et celui de toute sa smala, ses femelles et leurs enfants, qui tour à tour font semblant de manger, bâillent, se frappent la poitrine, brisent des branches, avec ce sentiment étrange qu'ils font tout ce cirque à la fois pour intimider l'intruse, car ils ont senti bien sûr qu'elle était là, mais aussi pour attirer son attention. Diane est fascinée, envoûtée. Mais bon, elle est là en touriste, et donc à un moment, elle doit rentrer aux États-Unis. Mais quand elle quitte le sol du Zaïre, elle se fait une promesse. Elle reviendra. C'est sûr, elle reviendra. L'occasion se présente 3 ans plus tard, en 1966. Diane Fossé va montrer les photos qu'elle a prises, là-bas dans les montagnes du Zaïre, à l'un des plus grands primatologues américains, le professeur Louis Leakey.
Ah ben c'est très bien. Mademoiselle Fossé, c'est très bien. Dites-moi, vous seriez prête à y retourner ? À y retourner ? Bien sûr, j'en rêve, pourquoi ? Eh bien, je cherche quelqu'un pour ma fondation. Pour étudier les gorilles des montagnes. Est-ce que ça vous tente ? Mais je n'ai aucune formation, je n'ai aucun diplôme. Ça n'est pas grave. Je cherche des gens motivés. Vous m'avez l'air d'une jeune fille très motivée, non? Qu'en dites-vous? Eh bien, je ne sais pas trop. J'imagine que oui. Oui. C'est à ce moment-là que la vie de Diane Fossé bascule. Et celle des gorilles des montagnes aussi. Et cette fois-ci, c'est au Rwanda qu'elle débarque, le 24 septembre 1967. Et elle file tout droit dans ce que les Rwandais appellent le parc naturel des volcans, au nord du pays, une zone protégée de 160 km². Et elle commence par bâtir un campement au milieu de la forêt. Un petit camp qu'elle baptise Karisoke, contraction du nom de deux montagnes voisines. Une grande tente pour elle, avec son lit, son bureau et sa machine à écrire. Et une autre pour les Rwandais qu'elle a embauchés comme assistants. Au début, c'est pas évident, hein. Elle ne parle pas un mot de Kinyarwanda, la langue locale. Et les Rwandais ne parlent pas un mot d'anglais. Alors, ben, ils parlent par gestes. Et Diane se lance à corps perdu dans sa nouvelle tâche. Repérer des troupes de gorilles, les observer et rédiger des rapports. Et tout l'enjeu, eh bien, c'est de s'en approcher. Or, les gorilles sont timides. Quand ils l'entendent arriver à 30 mètres, ils déguerpissent. Ou alors, à l'inverse, ils chargent, parce qu'ils ont peur. La première fois que des gorilles lui foncent dessus, elle est en train de gravir une petite colline, et tout d'un coup, elle entend des cris stridents. Et elle voit 5 gorilles fous furieux dévaler la colline. Je me rendis compte que les gorilles étaient au-dessus de ma tête quand je vis les futaies s'écarter comme au passage d'un tracteur fou qui fonçait directement sur moi. Et là, que faire? Diane se jette à terre et elle prend une position aussi soumise que possible. Les 5 gorilles s'arrêtent au-dessus d'elle. Et pendant une demi-heure, elle ne bouge pas. Et eux, ils ne bougent pas non plus. Une ou deux fois, elle tente de se redresser un peu, le mâle dominant lui hurle dessus. Alors comment sortir de cette situation de blocage? Diane a une idée géniale. Tout doucement, elle tend son bras et elle attrape une feuille d'arbre et elle se met à la manger. Manière de dire, regardez, je suis comme vous, je mange des feuilles. Eh bien, ça marche. Les gorilles ne sont pas naturellement agressifs, ils sont juste effrayés. Et Diane en tire une conclusion. Face à un gorille inquiet, il ne faut jamais rester debout. Il ne faut pas se redresser. La station debout pour un gorille, c'est une position de combat. Il ne faut pas non plus s'enfuir en courant. Ils ne vous lâcheront pas. Et pourtant, quand on les entend grogner, c'est tentant de s'enfuir. Et c'est comme ça que petit à petit, millimètre par millimètre, Diane parvient à s'approcher. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Aucun chercheur n'a jamais été aussi intime avec des gorilles des montagnes. Aucun. Et il lui faut 2 ans et demi pour franchir l'étape suivante. Et un jour de 1970, elle est en train d'observer un groupe et soudain un jeune gorille qu'elle a baptisé Peanut s'approche d'elle, lentement. Et il vient s'asseoir juste à côté d'elle, à moins d'un mètre, l'air de rien, sans la regarder. Et elle, elle fait semblant de manger des feuilles, comme elle le fait depuis le premier jour. Et la Peanut se met à lui jeter des coups d'œil furtifs. Alors elle s'allonge sur le dos, dans l'herbe, les paumes de main vers le ciel. Et elle le voit qui hésite, pas longtemps, et qui avance sa main à son tour, jusqu'à la toucher. Pas longtemps, il l'a juste effleuré. Et après? Après, il se redresse et il se met à se battre la poitrine avant de rejoindre le groupe. Et tous les soirs de retour au campement, Diane Fossé s'enfonce dans sa tente et elle s'assoit devant sa machine à écrire. Et elle écrit tout ce qu'elle a observé, ressenti pendant la journée. Elle est la première à observer aussi longtemps des groupes de gorilles des montagnes.
Elle rédige des articles dans lesquels elle tente de décortiquer la structure sociale des groupes. Comment les différents groupes qu'elle croise sont organisés. Par exemple, elle a remarqué que le mâle dominant, avec son dos argenté, est celui qui a le monopole de la reproduction. Il peut y avoir d'autres mâles hein, dans la troupe, mais ils se la mettent sur l'oreille. Les femelles sont réservées aux dominants et rien qu'aux dominants. Les femelles sont classées hiérarchiquement. Le dos argenté a une première femme, une deuxième femme, une troisième femme, etc. Et quand ils croisent d'autres groupes de gorilles, les mâles dominants s'échangent les femelles. Et la femelle, qui n'était que la quatrième femme d'un dos argenté, peut devenir d'un coup la deuxième femme d'un nouveau mâle. Et là, Diane observe quelque chose de tout à fait cruel. Quand un mâle dominant acquiert une nouvelle femelle, il lui arrive de tuer ses petits, les bébés qu'elle a eus avec d'autres gorilles, pour avoir l'exclusivité de sa descendance. C'est tout ça qu'elle décrit, le soir, dans sa tente, dans de longs articles pour faire avancer la science. Ce qui fait que le temps passant, on commence à parler de Diane Fossé dans les journaux aux États-Unis. Et d'ailleurs, à un moment, elle revient au pays le temps de décrocher un doctorat en zoologie. Et sur place, le Carisoque Research Center, son petit campement, s'agrandit. À la place de la tente qu'elle occupait au début, il y a maintenant une grande cabane de deux pièces. Et tout autour, d'autres cabanes où vivent ses assistants africains. Et des étudiants américains de plus en plus nombreux qui viennent étudier les gorilles. Diane leur apprend toutes les ficelles, et notamment leur langue. Car en 5 ans, Diane a appris à pousser les mêmes grognements qu'eux, les mêmes petits cris, et ils lui répondent, figurez-vous. Mais il y a autre chose qui mobilise Diane et ses étudiants. Les braconniers, la chasse aux braconniers, qui commence à lui valoir beaucoup d'ennemis. Les braconniers qui chassent des antilopes et qui posent des pièges dans lesquels tombent aussi les gorilles. Et quand par hasard, ils tombent directement sur un gorille, ils le descendent. La tête de gorille empaillée se vend à prix d'or. Et les mains, vous savez ce qu'ils font avec les mains des gorilles? Ils en font des cendriers. Alors comment combattre ces abrutis? Diane, en la matière, n'a pas d'état d'âme. D'abord, elle organise des battues pour récupérer et brûler les pièges. Et puis, elle leur fait peur. Les braconniers rwandais sont nourris de magie noire. Alors, avec ses assistants, elle a acheté des masques d'Halloween. Et quand les braconniers apparaissent, ils surgissent des forêts pour les effrayer. Et en même temps, ils en capturent un chasseur. Et ils le ramènent au campement, et ils l'humilient, et ils le fouettent. Et parfois, ils le barbouillent de crottes de gorille. Et tout ça fait que Diane ne se fait pas que des amis au Rwanda. Les gens du coin la prennent pour une sorcière. Ils l'appellent Nir Machabeli, littéralement la femme qui vit sans homme dans la forêt. Ça les intrigue beaucoup, cette femme qui semble préférer ses gorilles aux hommes. Et pourtant, Diane a eu un amant, un homme. Pas longtemps, elle ne lui consacre que 3 lignes dans son livre. Alors qu'elle écrit des chapitres entiers sur sa chienne et sur ses 2 poules. Il s'agit d'un photographe animalier, Bob Campbell, du National Geographic. L'idylle a duré plusieurs mois, mais le joli cœur a fini par comprendre qu'elle ne quitterait jamais ses singes pour lui. Les gorilles sont devenus sa famille. Et d'ailleurs, elle leur a donné à tous des petits noms. Par exemple, le grand mâle à dos argenté qui dirige le groupe le plus important qu'elle observe. Elle l'appelle Uncle Bert, parce qu'elle lui trouve une ressemblance avec son oncle aux États-Unis. Et dans cette même famille, il y a aussi Petula, Macho, Tiger, Simba et Augustus. Mais son préféré, celui avec lequel elle passe le plus de temps, c'est Digit. Digit, elle le connaît depuis tout petit, quand il pesait moins de 50 kilos. Elle a appelé comme ça à cause d'une malformation qu'il a sur les doigts. Et le temps passant, Digit est devenu un grand gorille, pas encore un mâle dominant, mais pas loin. Il aide le patriarche, Uncle Bert, à défendre le groupe. Et surtout, il est très sociable. Dès que Diane s'approche, il vient à sa rencontre. Et il adore qu'elle ramène du monde. Et ça, c'est une découverte qu'elle a faite récemment. Les gorilles pratiquent l'amitié par association. C'est-à-dire que les amis de leurs amis sont leurs amis. Et Digit sait faire la différence entre les hommes et les femmes. Il aime bien jouer, il joue avec tout ce qu'on lui apporte, des carnets de notes, des thermos, des appareils photos, des miroirs, tout ce que vous voulez. Mais du haut de ses 120 kilos, Diane a observé qu'il est plus prévenant avec les femmes et plus rude avec les hommes. Et quand les autorités rwandaises, pour récolter de l'argent, décident d'organiser des safaris, d'emmener des touristes voir les gorilles, c'est lui, Digit, qui prend la pose pour les affiches. Avec ce titre qu'on va retrouver dans toutes les pubs de par le monde, « Venez me voir au Rwanda ». Qu'est-ce que Diane Fossé pense de tout ça? Vous la connaissez un peu maintenant. Elle n'est pas emballée par l'arrivée des touristes, mais elle accepte leur présence, pourvu qu'ils ne soient pas trop nombreux, parce que les touristes, c'est de l'argent. Et l'argent lui permet d'embaucher de plus en plus de gardes. Elle a maintenant à sa disposition une sorte de milice privée, en plus des gardes du parc national, à qui elle ne fait absolument pas confiance. Elle sait qu'ils sont corrompus. Plusieurs fois, elle a vu des bébés gorilles être enlevés pour le compte de riches américains ou de zoos européens, et les gardes et les autorités fermaient les yeux. Du coup, elle a choisi de faire la justice elle-même. Elle appelle ça la protection active. Sur le plan de la défense des gorilles, c'est formidable. Mais vis-à-vis du Rwanda, Diane Fossé est souvent hors la loi. Un jour, par exemple, elle traque un groupe de braconniers dans la forêt. Et elle tombe sur un petit enfant prêt à tirer une flèche sur une antilope. Elle s'approche de lui sur la pointe des pieds. Elle se jette sur lui, elle le capture et elle le ramène au camp. Et là, elle fait passer un message aux braconniers.
« Je vous rendrai l'enfant si vous me promettez de ne plus mettre un pied dans le parc. »
C'est un enlèvement. C'est du kidnapping, c'est rien d'autre. Deux jours plus tard, la famille de l'enfant accepte. Mais ce qu'elle a fait grincer des dents jusqu'à l'ambassade américaine. Et même chez les étudiants qui lui servent d'assistants. Diane Fossé ne fait pas l'unanimité, loin de là. Le 1er janvier 1978, dans la soirée, l'un de ses pisteurs rentre au camp tout essoufflé.
Diane ! Diane ! Diane ! Le groupe d'Uncle Bert et de Digit, on ne sait pas où ils sont. Ils sont introuvables.
Dès le lendemain, elle envoie deux patrouilles à leur recherche. Et c'est un étudiant, Yann Raymond, qui tombe sur le cadavre de Digit. On lui a coupé la tête et les mains. Le corps est ramené au camp. Diane est en larmes, elle se penche sur la dépouille de son amie et instantanément, sa douleur se mue en colère. Elle écrit « Je revoyais défiler devant mes yeux toute la vie de Digit depuis le premier instant où je l'avais vue 10 ans plus tôt. Petite boule soyeuse de fourrure noire, je me sentais comme amputé d'une partie de moi-même. » L'assassinat de Digit annonce la fin du séjour de Diane Fossé au Rwanda. Digit est enterré dans le cimetière des gorilles le 2 janvier 1978, à quelques pas du camp. Diane est inconsolable. Elle se met à picoler, à fumer cigarette sur cigarette. Elle est devenue misanthrope au dernier degré. Et 6 mois après la mort de Digit, un matin, un étudiant en panique vient frapper à sa porte.
Diane ! Diane ! Vite ! Ils ont tué Uncle Bert ! Une balle en plein cœur.
En menant sa petite enquête, Diane découvre qu'Uncle Bert a été tué en défendant un bébé gorille de son groupe. Les braconniers voulaient kidnapper le bébé. Le conservateur du parc les a laissés faire. Sa réaction est terrible. Elle envoie sa milice brûler des cases dans les villages où vivent les braconniers. Elle a dépassé les bornes. Le gouvernement rwandais n'en peut plus. Le gouvernement rwandais n'en veut plus. On ne fait pas justice soi-même dans un pays qui, par ailleurs, n'est pas le sien. Même l'ambassade américaine ne peut plus la protéger. Alors en 1982, Diane Fossé est priée de quitter le pays. Au revoir, madame. Vous avez fait un travail formidable, mais vous avez dépassé les bornes. Et donc, Diane rentre aux États-Unis. Elle devient professeure d'université à New York et elle profite de sa célébrité pour courir les plateaux télé et alerter le plus de monde possible sur la disparition des derniers gorilles des montagnes. Elle publie un livre, Gorille dans la brume, qui devient un best-seller mondial dont elle vend les droits à Hollywood pour en faire un film. Mais vous vous en doutez, elle n'a qu'une idée. Elle veut retourner au Rwanda. Elle l'écrit dans son livre. « La vie est tout juste supportable, si loin de chez moi, du camp et des animaux. Je vendrai mon âme pour être là-bas, en ce moment. » Alors en 1985, elle brave l'interdit et elle retourne à Carizoke après 3 ans d'absence. Quand elle arrive, la situation a beaucoup changé. Le tourisme s'est beaucoup développé et le gouvernement rwandais, qui a compris qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, a fait beaucoup d'efforts pour protéger les gorilles. Mais en échange, son centre est devenu un hôtel pour touristes. Et ça, elle a du mal à le supporter. Et puis elle picole, toujours autant. Sa santé petit à petit se dégrade, elle sort de moins en moins pour aller voir les gorilles. Et elle dit un jour à un de ses rares amis,
« Je me sens menacé. Je pense qu'on cherche à se débarrasser de moi. »
Paranoïa ? Non. Le 27 décembre 1985, on retrouve le corps de Diane Fossé dans sa cabane. Elle a été massacrée à la machette. Par qui ? On ne le saura jamais. Diane Fossé est enterrée dans le cimetière des gorilles, aux côtés de son ami Didjit. Elle avait 53 ans. Grâce à elle, la population de gorilles des montagnes a doublé. À sa mort, ils sont 500 à évoluer dans les massifs des Virunga. Ils sont aujourd'hui 900. Les gorilles sont la seule espèce de grand singe à avoir vu leur population augmenter au cours des dernières décennies. Et c'est grâce à Diane Fossé, mais pas que. C'est aussi grâce au gouvernement rwandais qui a fait le choix d'un tourisme très limité et donc très haut de gamme. Si vous voulez aller voir les gorilles du Rwanda, 1 ou 2 heures depuis le parc national des volcans, il faut aujourd'hui un permis. Un permis qui vaut, tenez-vous bien, 1 300 € pour une visite. Le nombre de visiteurs est volontairement limité à quelques dizaines par jour. C'est le prix de la préservation des gorilles dans leur habitat pour leur bonheur et pas le nôtre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.